Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. À Popopop, on aime bien les écrivains, ça ne vous aura pas échappé, en particulier ceux dont la maîtrise romanesque nous emporte loin du monde, tout en nous y ramenant par un subtil jeu de miroir. Dans ce domaine, et l'intéressé me pardonnera, j'en suis sûr, cette facilité, il y a les élèves et il y a le maître, Pierre, de son prénom. Il en faut de l'ambition, il en faut du souffle pour raconter le siècle qui vient de s'écouler dans un cycle romanesque vertigineux qui a le double avantage de ravir les amateurs de littérature haletante, à la mode des feuilletons, et ceux qui demandent à la littérature une diversion provisoire du réel, une échappée leur permettant tout aussi bien d'oublier quelque temps les bruits de bottes à la frontière ukrainienne, par exemple, que plus prosaïquement la réévaluation des montants compensatoires. Pierre Lemaître est fait de ce bois-là, et le succès qu'il rencontre en librairie fait un bien fou à tout le monde, le petit comme le grand, toute taille confondue, à commencer par lui-même bien sûr, aux libraires évidemment, et à tous ceux pour qui la littérature fait partie de ces biens essentiels et consolatoires qui nous permettent de visiter d'autres mondes et de comprendre un peu mieux le nôtre. Aujourd'hui, visite dans le grand monde, le nouveau Lemaître, notre maître à tous. Cette émission a pour titre Lemaître, valeur étalon. Pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Bonjour, c'est Pierre Lemaître. Aujourd'hui, je suis l'invité d'Antoine de Caunes et pop, c'est pas la peine de vous précipiter. Je vous assure, il y en aura pour tout le monde.
Bonjour Pierre Lemaître.
Bonjour Antoine de Caunes.
Ah, on sent une certaine pratique dans l'usage du pop.
Oui, oui, je m'entraîne tous les jours.
Oui.
Ah oui, c'est une discipline quotidienne.
Rassurez-moi, c'est pas dans un bistrot, non.
Non, c'est chez moi, non, c'est un pop très intime.
Oui, parce que moi je l'entends, j'ai pas mal entendu le pop, vous voyez ce que je veux dire. Vous seriez contre l'idée d'être exposé au musée de Sèvres comme valeur étalon?
Oui, ma modestie en souffrirait vraiment beaucoup. Oh, ça flatterait beaucoup ma sœur, ma famille, mes cousins, tout ça. Mais moi, j'en souffrirais un peu, oui.
Vous venez nous présenter votre nouveau roman, Le Grand Monde, sorti le 25 janvier chez Calman Lévy, qui est le premier d'une tétralogie, Les Années Glorieuses. Il ne s'agit donc pas des années que nous traversons en ce moment. Pensez qu'on écrira un jour sur les années 20 ou qu'on préférera les oublier?
On écrira parce qu'on écrit sur toutes les périodes qui sont des périodes de contradiction. Or, la nôtre est une contradiction. Donc, je pense que ça va intéresser les écrivains, oui, forcément. Je ne sais pas à quel moment ils vont s'y mettre, vraiment, mais je pense que inévitablement cette période-là sera romanisée.
Alors là, vous annoncez une tétralogie, et annoncer une tétralogie, c'est se mettre une sacrée pression, non ?
Pas tellement, parce que vous savez, pas tellement, parce que en fait, les choses se font tellement progressivement, vous enchaînez une idée à l'autre, puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ça fait 4 livres. Mais évidemment, si je m'étais réveillé le matin en me disant il faut que je fasse 4 livres, je crois que j'aurais été très angoissé, mais c'est pas comme ça que ça se passe.
Et là, vous l'annoncez, la tétralogie, et vous savez que le dernier qui l'ait fait, c'est Wagner, et comme disait Woody Allen, à chaque fois que j'écoute Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne.
Oui, alors, moi je ne sais pas ce que je pourrais envahir. Bon, déjà, je m'occupe du petit territoire qu'est la France, ça fait mon bonheur.
Plus pacifiquement, moi j'annonce ce qu'on va faire dans l'émission. On va parler d'abord de vous, puis avec Charline Roux de votre nouveau roman, donc. Mais je ne me risquerai pas à annoncer, par exemple, le lauréat du prochain Goncourt ou les vainqueurs des Césars. Alors, je parle de ça parce que Pierre Lemaître, votre modestie à nouveau, dut-elle encore en souffrir, mais vous êtes justement lauréat du prix Goncourt en 2013 pour Au revoir là-haut, et césarisé pour son adaptation. De tout cela, nous allons parler dans un instant, juste après avoir écouté l'ex-Oasis Liam Gallagher nous chanter « Everything is electric ».
We'll be right back.
C'était Everything's Electric de Liam Gallagher avec la frappe raffinée de Dave Grohl qu'on aura tous reconnu derrière. Et c'était dans les oreilles de notre invité Pierre Lemaître. Pierre Lemaître, vous avez déclaré l'exactitude. Je m'en fous, ce que je veux, c'est la vérité. C'est tout un programme de faire une différence entre ce qui est exact et ce qui est vrai. Est-ce que ça pourrait être une des définitions possibles de la littérature, ou en tous les cas, l'une de ses tâches?
Alors, je sais pas, mais en tout cas, c'est une définition de la façon dont je vois, moi, mon travail. Ouais. Hein, je pense pas que ça puisse être une étiquette pour l'ensemble de la littérature. Ouais. En fait, quelle différence il y a? C'est l'exactitude, c'est les boutons de guêtre. Il y a des gens qui me disent, oh, la Juve A4, là, elle a pas été commercialisée en 48, mais en 49, elle peut pas être là. Bon, c'est des anachronismes, je le fais pas exprès, mais je le cultive pas. Mais enfin, quand j'en trouve une inexactitude, je n'en souffre pas beaucoup parce que j'ai pas l'impression que le mensonge est bien grave. Mmh. En revanche, la vérité historique, ça m'embêterait, parce que la vérité historique, c'est un curseur moral.
Bien sûr.
Et ça, par contre, il faut y faire attention.
En tous les cas, nous avons aussi chez Popopop, nous aussi chez Popopop, on veut la vérité sur vous. Et pour commencer, puisque nous parlons de littérature, vous racontez que votre mère vous a acheté tous les livres de poche depuis leur création en 53 jusqu'au numéro 400. Le premier était donc le Königsmark de Pierre Benoît. Et vous avez en mémoire encore tous ces titres?
Non, maintenant la mémoire s'en est un petit peu effacée, mais par contre il me reste une image, c'est l'espèce de kaléidoscope absolument incroyable de cette collection. Quelle était, Antoine de Caunes, la logique de l'éditeur? Ça reste pour moi un absolu mystère. Vous aviez à la suite Mazot de la Roche et Jean-Paul Sartre, bon, et c'était un tel éclectisme que finalement je me suis rendu compte après que ça m'avait beaucoup servi, parce que du coup j'ai pas eu de méthode de lecture, j'ai pas eu de méthode d'apprentissage, et ça a favorisé un petit peu de fantaisie chez moi, je crois.
Ça veut dire que vous êtes rentré en littérature par la poche, d'une certaine manière?
Oui, j'y suis rentré par la poche et revenu par la fenêtre.
Par la poche. Et en mettant aussi, en lisant beaucoup les journaux, les journaux de cette grande époque, de la fin des années 50, 60.
Oui.
La narration, les faits divers. Enfin,
oui, parce que.
Très important,
savez,
pour vous.
Oui, à l'époque, le grand journal, le grand quotidien, c'est France Soir. Rendez-vous compte, il tirait 1 million d'exemplaires par jour et faisait 4-5 éditions. Et en fait, tous les jours, on lisait le France Soir, je lisais bien sûr les nouvelles, les faits divers, mais aussi le feuilleton. Voilà. Et en fait, mon apprentissage de la littérature a été fait à la fois par les feuilletons du journal et les feuilletons que je lisais, qui étaient les grands auteurs du 19e siècle. Ouais. Au fond, le feuilleton, c'est franchement ma marque de fabrique. Je suis tombé dedans étant petit.
Je reviens quand même juste un instant à ce Goncourt, pardonnez-moi, dont je parlais tout à l'heure, qui a été quand même très important dans votre parcours. Puisqu'on parle de Goncourt, il faut bien parler de ça.
Avoir déclenché la guerre, pour ne pas l'avoir empêchée, pour avoir aimé la faire, vous êtes tous condamnés à mort. Exécution!
Alors c'est évidemment un extrait de Au revoir là-haut, le film d'Albert Dupontel sorti en 2017, adapté de votre roman éponyme, prix Goncourt 2013. Le film a d'ailleurs lui-même été récompensé de 5 Césars, dont un pour vous, pour la meilleure adaptation. Nous sommes à 2 semaines et demie de la nouvelle cérémonie des Césars. Un conseil au futur lauréat du meilleur scénario?
Oui, si vous avez la chance d'être césarisé, n'allez pas imaginer que vous avez écrit le meilleur scénario pour autant.
Donc humilité.
Oui, humilité, parce que bon, c'est un concours, c'est-à-dire bon, il faut qu'il y en ait un, alors ça va être celui-ci. Mmh. Enfin, on a vite fait de croire qu'on est un grand homme dans ce genre de situation. Ouais, ouais. Je l'ai vécu 2 fois, je peux vous le dire. Ouais. Hein, c'est les paroles d'Évangile, ça. Ouais.
En tout cas, l'expérience de l'adaptation d'un de vos romans vous a donné envie de continuer dans un format un peu différent, celui de la série.
Comptez virer combien de personnes à Beauvais?
1250. On m'a mis sur un siège éjectable, cet enfoiré.
Je vous propose une prise d'otage.
Vous êtes toujours créatif, hein, c'est bien.
Je m'appelle Alain Delorme. J'étais ce qu'on appelle un senior.
Alors ça, Pierre Lemaître, c'était un extrait de Dérapage sur Arte, une série que vous avez adaptée en 2020 à partir de votre propre roman, Cadre Noir. C'est curieux de faire une libre adaptation de son propre roman, comme si quelqu'un d'autre l'avait écrit et que vous en y étiez emparé à votre tour?
Oui, c'est-à-dire que j'ai écrit l'adaptation. Je n'étais pas très très heureux de la réalisation, alors j'ai demandé ce que ce soit indiqué librement adapté, voilà.
D'accord. Vous décrivez vous-même votre travail comme avant tout un exercice d'admiration de la littérature. J'ai lu ça plusieurs fois. C'est comme si après, même après un Goncourt, votre modestie vous plaçait toujours dans une position d'invité, plus que de propriétaire.
Oui, parce que je suis un autodidacte. Mmh. Et donc, j'ai toujours souffert d'une sorte de crise de légitimité, si vous voulez. Mmh. Et je pense que si ce qui a été douloureux pendant longtemps, c'est comme un frein à la création, est devenu, avec l'expérience, plutôt une vertu. Mmh. C'est-à-dire que je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur les choses. Je fais mon travail du mieux que je peux. Je prends les compliments avec beaucoup de plaisir. J'accueille la critique avec beaucoup de fair-play. Mmh. En fait, c'est le seul avantage de vieillir.
Oui. Est-ce que c'est lié aussi peut-être au fait que vous ayez commencé par le roman noir, le polar ?
Oui, certainement, parce que c'est une école de modestie. Mm-hmm. Vous êtes, quand vous écrivez des polars, vous savez que vous écrivez un des milliers de polars qui vont paraître dans l'année, ouais. Et qu'on va le mettre dans une bibliothèque où existent des millions de polars. Donc ça amène forcément la modestie.
Ça tient peut-être aussi au fait que vous êtes ce que vous appelez un écrivain tardif ?
Oui, alors je suis pas seulement un écrivain tardif, je suis un homme tardif, je suis un père tardif, un mari tardif, enfin vraiment, j'ai dû prendre un quart d'heure de retard à la naissance et je l'ai jamais rattrapé.
Mais comment expliquez-vous ça, cette bascule que d'un seul coup vous soyez devenu un écrivain alors que vous l'avez sans doute toujours été ?
Oui, je l'ai toujours été parce que j'écris assez jeune, mais je le suis devenu à partir d'une rencontre, celle de Pascaline qui allait ensuite devenir ma femme. Vous savez, quand on est porté par la confiance de quelqu'un d'autre, tout devient impossible, ouais. Et presque tout devient facile.
Mais est-ce que ça veut dire que l'expérience d'une vie professionnelle sans rapport direct avec le monde littéraire est quelque chose d'extrêmement nourrissant, en fait ?
Oui, parce qu'il me semble, moi, qu'on écrit toujours...
Ça vous permet d'aborder la littérature sous un prisme nouveau ?
Oui, alors je ne sais pas si vraiment nouveau, en tout cas, où vous avez raison, c'est que l'expérience qu'on a de la vie, c'est ce qui va nourrir nos romans. Ouais. Donc, au fond, plus on écrit tard, plus on a engrangé de l'expérience et plus le livre a peut-être quelque chose d'être intéressant.
Pierre Lemaître, vous avez cette habitude singulière, hein, à l'endroit où beaucoup d'auteurs placent leurs remerciements, d'établir une liste de tous ceux qui vous ont inspiré un bout de souvenir ou une phrase, que vous les aimiez ou non. Alors ça donne des listes hétéroclites à la Prévert, où Flaubert côtoie Jérôme Cahuzac. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça et me jurer que je ne vais pas me retrouver un de ces jours dans une de ces listes ?
Alors ça, je ne peux pas vous le promettre, et même j'ai envie même de dire que vous avez dit des choses intéressantes et que vous risquez de les retrouver forcément dans un de mes livres. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on écrit, d'un seul coup, une idée, une image, une formule, vous vient et vous dites « Ah, ça, je l'ai lu ici ou je l'ai entendu là ». Alors moi, quand je m'en rappelle, je le note. Mm-hmm. Par exemple, quand j'ai besoin pour un scandale financiaro-politique, j'ai besoin d'un filou, je pense tout de suite à Cahuzac. Ouais. Vous voyez, c'est le premier... qui me vient. Donc, il a prononcé une phrase absolument admirable au Parlement français. Bah, je la reprends. Vous savez, ça m'était arrivé avec Eddie Mitchell. J'avais besoin, dans un roman, de faire une messe, ouais. Et j'imagine mon curé arrivant, et la première idée qui me vient, c'est de dire « Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs », comme dans la chanson d'Eddie Mitchell. Donc, j'ai noté Claude Moine dans les remerciements, parce qu'il n'y avait pas de raison de ne pas le remercier pour une phrase qui tombait pile dans mon roman.
Pierre Lemaître, dans un instant, nous allons parler en détail de votre nouveau roman Le Grand Monde, sorti le 25 janvier chez Calman Lévy, en compagnie de Charline Roux qui va nous rejoindre. Mais avant cela, je vous propose de vous installer confortablement et d'écouter ensemble Strawberries and Popcorn du groupe Hills.
Nobody here to hold me so tight and keep me warm. in my dreams.
Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour.
Charline, je vous présente Pierre Lemaître qui
Enchantée.
Vient nous parler de son nouveau roman Le Grand Monde, qui, je le rappelle, est sorti chez Calman Lévy le 25 janvier. Charline, il est grand comment le monde ?
Eh bien, il est tellement vaste qu'il va m'être très compliqué à cartographier et surtout, je m'en voudrais, vous aussi, lecteur, de trop en dire. Une immense partie du plaisir de cette lecture résidant dans le souffle de l'auteur par lequel il est drôlement bon de se laisser porter. Alors, sans trop spoiler, je peux vous dire que le roman, une saga familiale, démarre à Beyrouth en 1948 lors d'une procession visant à célébrer le succès de l'entreprise Pelletier, le patriarche ayant fait fortune dans le savon. La famille Pelletier a 4 enfants. L'un, Étienne, le fils préféré, part pour Saïgon à la recherche de son ami Raymond. 2 fils sont en partance pour Paris. François, aspirant journaliste, et Jean, dit Bouboule, celui qui n'en finit pas d'échouer. Et enfin, Hélène, qui ne rêve que de s'enfuir d'une nuit parentale où elle s'ennuie. Un roman qui m'a mis dans le même état que lorsque lycéenne, j'ai commencé à fréquenter les grands romanciers du 19e. Est-ce que la comparaison est, à vos yeux et vos oreilles, complètement hasardeuse ?
Non, elle n'est pas hasardeuse. Elle est bien sûr extrêmement flatteuse. Elle n'est pas hasardeuse dans la mesure où, effectivement, ce qui m'a nourri, ce sont les grands romanciers du 19e siècle. D'une certaine manière, c'est avec eux que j'ai appris à lire. Et quand je suis devenu romancier, c'est avec eux que j'ai appris à écrire.
Pierre Lemaître, les 30 Glorieuses, c'est cette période de reconstruction et de prospérité hein, qui va de 1945 à 1975. En gros, de l'après-guerre au premier choc pétrolier. Mais votre action ne démarre qu'en 48. Pourquoi cette année-là en particulier ?
Parce qu'elle est, le creux de la vague de l'après-guerre. En fait, les 30 Glorieuses, on s'imagine tout de suite, et c'est assez juste, les années où les familles vont s'équiper, le plein emploi, l'ascenseur social qui marche très bien. Mais quand on regarde de près cette période-là, elle commence par une période qui n'a rien du tout de glorieuse, qu'on a même appelée les années piteuses, parce que ce sont les années d'après-guerre avec des cartes d'alimentation, avec un logement difficile, avec un fort taux de chômage, des milliers de jours de grève qui sont le baromètre d'un pays en forte tension sociale. Ouais. Et donc c'était intéressant de commencer à feuilleter ces 30 Glorieuses par des années qui ne le sont pas et qui prennent un tout petit peu à rebours l'idée que nous en avons généralement. Ouais.
La scène d'ouverture, soit la procession vers l'usine à savon, est un délice qui donne le ton entre cruauté et précision, notamment pour profiler les personnages. Je vous lis les toutes premières lignes. Au fil des années, la procession familiale qui empruntait l'avenue des Français avait connu bien des variantes, mais jamais encore elle n'avait pris l'allure d'un cortège funèbre. Au détail près qu'elle était bien vivante, il semblait cette année qu'on emmenait Madame Pelletier à sa dernière demeure. Fin de citation. Comment est-ce que vous travaillez vos incipits ?
Ah bah écoutez, je le refais. Écoutez, c'est certainement la phrase du roman qui me demande le plus de travail. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Bien sûr, c'est parce que ça sera l'entrée dans le roman pour le lecteur et qu'il faut qu'elle soit bonne, quoi, autant qu'on puisse la faire. Et puis, une autre raison, c'est que c'est ma manière à moi de mettre le roman sur ses rails. Et si la phrase, elle est bien cadencée, qu'elle correspond à l'idée que je me fais du roman, j'ai l'impression que la locomotive est en place pour partir, quoi. C'est un peu bête, mais enfin bon, ça marche.
Et elle est partie pour un long voyage, cette locomotive. Oui. Alors, ce genre de saga familiale auquel vous attelez ici, et dites-vous votre préféré parce qu'il vous permet de faire comme roman ce que vous aimiez comme lecteur. Vous êtes entré en littérature, vous le disiez il y a quelques minutes, par Dumas, Tolstoï, Dickens, Zévaco et compagnie. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Et c'est à leur contact que votre conception du roman s'est forgée, s'est mise en place ?
Alors moi, je ne le savais pas. C'est quand je suis devenu romancier que je me suis rendu compte que mes modèles, je les avais puisés là, et que, pas seulement ça, les recettes narratives, c'est-à-dire la manière qu'ils avaient de raconter des histoires, c'était la façon dont j'avais envie moi-même de les raconter. En fait, ça agit comme imprégnation. J'ai lu ces romans-là, ils sont imprégnés. Je ne suis pas aujourd'hui le lecteur de ces romans-là. Mmh. Je suis plutôt le lecteur aujourd'hui de Éric Vuillard, de Jean Echenoz, de Tanguy Viel, de gens comme ça. Ils sont très différents de moi. Mais quand je me mets à écrire, c'est presque l'enfant qui a été bercé par Dumas qui se remet au travail.
Dans cette famille Pelletier, quatre enfants, quatre destinées différentes et des enjeux qui pourraient presque donner quatre romans aux tonalités différentes. Comment est-ce que vous avez veillé à l'unité de tout ce petit monde et de la narration ?
Alors, ouvrons un peu le capot.
Écoutez, ce qui est compliqué dans une saga familiale, c'est que chaque personnage va être un peu dans son couloir de nage. Mmh. Chacun a sa destinée, chacun a son histoire. Donc, la grande question, c'est comment vont-ils se croiser ? À quel sujet vont-ils se croiser ? Comme dans toutes les familles, il y a ceux qui s'aiment bien et ceux qui s'aiment moins, ceux qui sont proches, ceux qui le sont moins. Et donc, en fait, c'est une espèce de puzzle, ou plutôt, je dirais, de jeu de chaises musicales où vous n'arrêtez pas de déplacer en quelque sorte les pions. Moi, ça m'amuse beaucoup, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps d'essayer à la fois que tous les personnages existent, qu'on ne les perde pas et qu'on ait plaisir quand ils se rencontrent, quand ils se croisent, y compris quand c'est pour se disputer, pour se friter. Enfin, je veux dire, ça fait partie aussi des plaisirs familiaux. Franchement, une famille sans engueulade, c'est pas une famille.
Pierre Lemaître, des sagas familiales de cette envergure, là, ça console un peu le petit enfant triste que vous avez été.
Oui, alors c'est émouvant hein, de dire ça, parce que oui, c'est vrai, il m'est arrivé de dire que j'avais été un enfant triste et heureux, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la jubilation que j'ai à raconter mes histoires, le plaisir qui, j'espère, passe dans le livre et qui, j'espère, touche le lecteur... En tout cas, c'est vrai, vous avez raison, c'est une assez belle revanche sur un passé assez triste, oui.
On adore vos romans ici parce qu'ils racontent des histoires avec du fond, de la substance, du suspense, des rebondissements, un écho social et politique et de l'ironie, tout ce qui fait en fait les grands romans populaires. Or, c'est un cocktail qui ne court pas tellement les rues dans notre pays. Pourquoi ? Pourquoi ça, à votre avis ?
Oh, d'abord, Antoine, ça n'est pas à moi de le dire. Je ne sais pas.
Non,
très...
mais non, on est dans un pays où cette tradition existe. Pourquoi s'en est-on écarté à ce point-là ?
Alors, vous savez, il y a toute une histoire. On est passé par le nouveau roman, on est passé par des périodes dans lesquelles raconter une histoire n'était plus le but de la littérature. On avait perdu un peu le plaisir de ça. Contre d'autres plaisirs, on les avait échangés contre des plaisirs plus conceptuels. Et puis, j'ai l'impression que c'est revenu. Le roman populaire qui est passé par le roman policier, lui a toujours aimé raconter des histoires. Moi, j'ai pas beaucoup de mérite, c'est la seule chose que je sais faire.
Vous avez déclaré au micro de notre camarade Augustin Trapenard, on ne fait rien sans colère, je suis quelqu'un d'assez colérique et la colère a tout de même quelques vertus. Alors, en quoi la colère a-t-elle été un moteur pour ce grand monde ?
C'est-à-dire que la colère que j'ai, je la revis avec mes personnages. Mmh. Et en fait, un livre n'a d'intérêt que si l'histoire qu'il raconte raconte aussi autre chose. Là, comme le disait Antoine, ce roman se veut à la fois l'histoire d'une famille, mais en même temps une petite peinture de la société dans laquelle cette famille est inscrite. Et sans la rage de dire quelques vérités sur le monde, j'ai l'impression que le roman ne serait pas le même. J'aurais certainement un roman qui pourrait être bien ficelé, mais j'ai l'impression que la colère qui m'anime et qui se radicalise avec le temps, c'est une confidence que je vous fais, qui se radicalise avec le temps, j'ai l'impression donne un roman plus musclé, plus nerveux, plus injuste et donc plus discutable.
D'où vient-elle cette colère ?
Oh, c'est une colère contre le monde qui, à mon avis, elle est antérieure à ma naissance. Je devais être en colère déjà à la conception. Je crois qu'il y a un désaccord fondamental entre la vie et moi.
Et que la littérature arrive à...
Oui, vous savez, la littérature, franchement, moi, ça a tout guéri dans ma vie. Ouais. Ça a guéri quand je suis devenu un lecteur, quand j'ai grandi, j'étais construit par la littérature, j'étais construit par les livres que je lisais, et aujourd'hui, je vis de ce qui m'a construit. Quelle revanche merveilleuse de l'existence.
Et quel roman merveilleux que ce grand monde de Pierre Lemaître aux éditions Calman Lévy. Pierre, on continue à parler avec vous dans quelques instants, mais je vois qu'il est déjà 16h30, ça veut dire que c'est l'heure du pop break et des pop news.
And the Oscar goes to... Les nominations pour les Oscars 2022 viennent d'être annoncées. C'est The Power of the Dog de Jane Campion qui fait la course en tête avec 12 nominations, dont meilleur film, meilleure réalisation, et ses 4 comédiens, dont le merveilleux Benedict Cumberbatch, sont tous nommés. Dune de Denis Villeneuve obtient 10 nominations, dont meilleur film. Suivent Belfast de Kenneth Branagh avec 9 nominations. 7 nominations aussi pour le West Side Story de Spielberg, dont film et réalisation. On trouve aussi La Méthode Williams et ses 6 nominations, dont une pour Will Smith et Satisfaction perso. Andrew Garfield est nommé catégorie meilleur acteur pour sa formidable prestation dans Tick Tick Boom, palmarès attendu le 27 mars.
Après Handmaid's Tale, la vie d'Elizabeth Moss dans les séries n'est toujours pas un fleuve tranquille. Dans Shining Girls, elle est une journaliste de Chicago qui survit à une agression brutale et se met à traquer son agresseur. Sauf que...
Personne ne se souvient d'autre chose. Alors ça recommence. Encore. Et encore.
Il est tout le monde. Il est personne. Il traverse le temps.
Le tueur en série qui voyage dans le temps est interprété par Jamie Bell, Billy Elliot, et Shining Girls débutera le 29 avril sur Apple TV.
Ça y est, enfin, les 6 titres inédits de Dr. Dre, jusqu'ici dispo uniquement dans GTA The Contract, sont enfin accessibles en dehors du jeu vidéo. 6 morceaux featuring Eminem, Rick Ross, Nipsey Hussle, Ty Dolla Sign ou encore ici, Anderson .Paak, Busta Rhymes et Snoop Dogg. Yeah, been around versatile, south of France, Rosecrans, pin them up, knock them down, baby, I don't hold hands. Big booty, little dog, jogging by Kenneth Hahn, trying to get a fitness on, bitch, just stop in the car. Et les 6 inédits de Dr. Dre sont disponibles sur toutes les plateformes légales.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
Yo, c'est mort.
C'est Toubib André, peut-être, la version française.
Docteur Dre, oui, Docteur Dre lui-même. Nous reprenons cette conversation avec Pierre Lemaître au sujet de Le Grand Monde, son nouveau roman paru chez Kalman Levy. Le Grand Monde, c'est donc aussi le premier livre de ce qui sera une tétralogie sur les 30 Glorieuses, elle-même faisant partie d'un projet pharaonique dans lequel vous aurez finalement raconté tout le XXe siècle. À l'heure de la littérature d'autofiction plutôt autocentrée, on a l'impression que vous allez totalement à contre-courant, Pierre.
Ah oui, j'ai l'impression que ça va un petit peu à contre-courant. Bon, ça me déplaît pas. Et puis surtout, je l'ai pas fait exprès. J'ai pas décidé d'être à contre-courant. Je commence un roman qui se passe dans l'immédiat après Première Guerre mondiale. Et puis, je me dis, ça serait bien de feuilleter ce 20e siècle qui, historiquement, est un siècle court puisque les historiens le font commencer à la guerre de 14 et terminer à la chute du mur de Berlin en 89. Donc, c'est un siècle de 70 ans court. Et j'ai eu envie de le, pardon.
Mais intense,
oui, avec, oui. Qui commence par une guerre mondiale, avec son acmé une deuxième guerre mondiale et qui vient s'écraser contre le choc pétrolier. Ouais, effectivement, c'est assez mouvementé avec au milieu la guerre froide, etc. Ouais. Et je me suis dit, c'était intéressant de le feuilleter parce que c'est mon siècle de référence. Au fond, j'ai 70 ans, je raconte 70 ans de l'histoire. Est-ce que ça vous semble pas cohérent, Antoine ?
Absolument cohérent. Et quoi raconter d'autre ? Je vous le demande.
Et dans ce roman, Le Grand Monde, 4 enfants n'ayant pas tous un potentiel héroïque, que ce soit au sens littéraire ou simplement humain, quels sont pour vous, et je m'adresse au lecteur cette fois, Pierre Lemaître, les qualités d'un bon héros de roman ?
Alors, un bon héros de roman, alors là encore, je ne prétends pas que c'est une définition qui toucherait, enfin qui correspondrait à toute la littérature. Ça correspond à celle que j'aime et à celle que je pratique. Le bon héros, c'est ce que disait Hitchcock, c'est-à-dire quelqu'un d'ordinaire à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un d'ordinaire parce que c'est ce qui va permettre au lecteur de s'identifier, de prendre du plaisir, de vivre avec le personnage, de ressentir avec le personnage des émotions positives ou négatives. On adore, on déteste. Bon, Bouboule dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un qu'on trouve de temps en temps touchant et de temps en temps insupportablement salaud. Bon, et voilà, les personnages sont ainsi. Donc, pour moi, un bon personnage, il doit avoir 2 qualités. Être ambivalent, c'est-à-dire qu'on doit à la fois le détester, l'aimer, ou en tout cas être inquiet et rassuré. Enfin, il doit toujours y avoir 2 sentiments un peu contradictoires. Et ce personnage doit vivre quelque chose qui n'est pas ordinaire.
Pierre Lemaître, je voudrais revenir un instant sur votre méthode de travail, sur cette idée que vous privilégiez la vérité à l'exactitude. Comment estimez-vous l'équilibre atteint quand il s'agit, par exemple, de nous, je sais pas, un exemple entre autres, de nous transporter dans le Beyrouth des années 40-50.
Dans le Beyrouth des années 40-50, c'est pas très difficile parce que c'est une société assez pacifiée. Le problème vient quand vous touchez des problèmes humains, par exemple comme la Shoah, comme oui. Voyez. Là, la notion de vérité est importante parce que si vous affranchissez complètement de toute vérité historique, vous pouvez demain faire un livre révisionniste sans avoir de scrupules moraux, ce qui serait inconciliable avec la conception que j'ai d'abord de moi-même, ouais. de mes valeurs et de la littérature. Donc pour moi, le curseur, il est purement moral.
Six mois de documentation, 12 mois d'écriture, c'est votre rythme, dites-vous. On est quand même très loin de la graphomanie.
Ah mais si, je suis graphomane parce que je jette beaucoup, vous comprenez? Ah oui, parce que vous dites, oh il écrit un gros livre, 600 pages, vous avez l'air de vous plaindre Antoine. Bon,
okay. Ah je ne me plains pas du tout, moi il pourrait en faire 800, je n'en plaindrai pas, je promets.
Mais en fait, pour arriver à 600 pages qui sont publiées, oui. il faut que j'en écrive beaucoup. Si, je suis graphomane, j'écris énormément, mais je jette beaucoup. Ah. Et je peux vous faire une confidence, j'ai un premier jet qui n'est pas très bon, et si je ne travaille pas beaucoup, ça reste très mauvais.
Bon, ça restera entre nous, Pierre Benoît. Et ce Saïgon, je suis fasciné par ça, ce Saïgon glauque et fascinant. Oui, cette Indochine dont les souvenirs ont inspiré Marguerite Duras, c'est pour vous de la pure matière romanesque, comme si certains lieux et certaines époques étaient particulièrement faits pour le roman. Vous n'avez jamais mis les pieds au Vietnam?
Non, j'ai jamais mis les pieds, d'abord parce que j'aime pas voyager, ouais. et puis en plus que le Covid m'a donné un bon prétexte pour rester à la maison.
Vous aviez l'intention d'y aller quand même?
Oui, j'avais l'intention, je m'étais un petit peu laissé faire à l'idée d'organiser ce voyage. Écoutez, vous avez raison, il y a des lieux quand même qui, par leur exotisme parfois, mais surtout par leur contradiction interne, donnent des sujets romanesques. Vous voyez, cette ville de Saïgon, c'est une ville absolument incroyable. Quand vous regardez la carte, vous avez vraiment l'impression que c'est une île assiégée parce que c'est une espèce de rond au milieu de rizière, et vous savez que cette ville vit comme une île, elle est assiégée, c'est bienvenue sur le Titanic.
Ouais, ouais.
Et en fait, cette ville, quand vous la regardez de plus près, elle est incroyable, c'est une ville-monde. C'est-à-dire qu'au fond, elle est une espèce de métaphore de l'univers. Et ça, c'est forcément une matière romanesque.
Vous dites ne pas faire partie des romanciers qui ont parfois l'impression que leur personnage leur échappe et que si c'est le cas, vous les licenciez, simplement.
Mais vous
tolérez qu'ils puissent vous surprendre, et c'est le cas de Geneviève, l'épouse de Bouboule, femme aussi méchante que médiocre. En quoi vous a-t-elle surpris?
Alors, mais c'est très bien ce que vous dites, vous êtes bien renseigné, dites-moi.
Ah bon, on l'a pas parlé.
Vous en savez des choses sur moi. Bon, écoutez, le personnage au début de Geneviève, c'est, je vois simplement une petite bonne femme qui trotte aux côtés de son mari, et je ne sais pas pourquoi, une lubie, comme ça m'arrive de temps en temps, je dois écrire une phrase du type et cette femme qui n'était ni jolie ni intelligente était en fait portée à incandescence des ambitions absolument démesurées. Et là, je pose le stylo et je me dis, il y a deux solutions. Soit c'est une bêtise et je vais le payer cher si mon personnage devient comme ça, soit c'est une bonne idée. Et la seule façon de le savoir, c'est d'essayer d'imaginer les conséquences dans votre livre de ce personnage. Et quand je l'ai mis avec Bouboule et que j'ai mis les deux personnages côte à côte, je me suis dit, là, je crois que j'ai un très joli couple que je vais pouvoir amener longtemps. C'est qu'il me faut du biscuit, j'ai 4 livres à faire. Hein.
Il y a dans ce livre, Pierre Lemaître, une formidable définition, presque une classification technique des cons. Ou plus précisément de la différence entre les imbéciles et les cons. Au sujet du lamentable docteur Douéry, vous écrivez « Si tu expliques 3 fois un truc à quelqu'un et qu'il ne le comprend pas, c'est un imbécile. Mais si à la fin il est certain de l'avoir compris mieux que toi, alors là t'as affaire à un con. » Et j'avoue que j'ai pas vraiment de questions à ce sujet. Je voulais simplement me faire le plaisir de vous citer au passage. Vous croisez plus d'imbéciles que de cons, ou bien l'inverse?
Je croise plus d'imbéciles quand même. Les cons, les vrais cons sont quand même relativement rares. Le vrai con, le con pur, ouais. vous voyez, la substantifique moelle du con, ça c'est quand même un objet assez rare. L'imbécile court les rues. L'imbécile court les rues. J'ai l'impression, peut-être même encore plus en période électorale.
Vous savez que Frédéric Dard disait « La chasse aux cons, un safari sans espoir ».
Seriez... je ne connaissais pas, mais
vous seriez prêt à revendiquer, prêt à reprendre le fusil, enfin à défaut du corbeau.
Oh non, pas plus que lui. Enfin, en tout cas, je dois avoir que ça de commun avec lui, que le plaisir de croquer des imbéciles, c'est toujours un plaisir romanesque renouvelé. Vous voyez, c'est sans fond, c'est un plaisir, c'est
sans fin.
Oui, absolument.
Et dans le grand monde, on croise un Monsieur Jantet, un Georges Vaillant, un Gaston Pommel, soit les noms des personnages, si je ne m'abuse, du Veuf, des évadés, des rescapés de Télémaque, de Simenon, puisqu'on vante votre précision et vos lettres depuis quelques minutes maintenant. J'imagine que ce n'est pas un hasard.
Non, dis donc, vous êtes une lectrice très, très, très aguerrie.
Très
une très grande majorité, presque la totalité des personnages secondaires ont un patronyme emprunté à Simenon, jusqu'au chat qui s'appelle Joseph et qui est, j'ai dû aller rechercher dans le texte de Simenon pour m'en apercevoir, Joseph c'est le nom du chat du roman Le Chat qui a été adapté au cinéma.
Avec Simone Signoret.
Oui, absolument, avec Simone Signoret, qui est un livre et un film magnifique les deux. Et donc, je me suis amusé à ça. Dans le précédent, c'était des personnages de Proust, dans un autre, c'est Dumas. Enfin, je m'amuse toujours un petit peu avec les lecteurs qui connaissent. Mon idée, si vous voulez, c'est que le lecteur qui ne le sait pas n'est pas empêché de lire le livre et ça ne l'exclut pas. Et celui qui le découvre, il y a un petit clin d'œil supplémentaire. J'essaie de parler à tout le monde.
Un moyen de rappeler que la littérature est aussi en jeu.
Oui, absolument, absolument, tout à fait.
Il y a dans l'idée même de la saga quelque chose d'absolument populaire et pourtant, et le prix Goncourt en atteste, parmi une tripotée d'autres récompenses, votre écriture est celle d'un grand romancier. Mais c'est comme si on attendait impatiemment, depuis un moment, un grand écrivain populaire. Vous sentiez-vous ce manque en tant que lecteur, Pierre Lemaitre ?
Non, je peux pas, je pourrais pas dire ça.
On peut le dire à votre place.
C'est fait.
Oui, bon, voilà, vous l'avez dit. Écoutez, ce que je sais, c'est que je ne trouvais pas dans la littérature beaucoup de romans qui avaient la tonalité, la couleur de ce que j'avais aimé. Ça ne m'empêche pas d'aimer énormément beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Je lis avec beaucoup d'appétit Nicolas Mathieu, Leïla Slimani, Jean Ichenoz, dont je parlais tout à l'heure. Bon, j'adore tous ces livres, mais je ne trouvais pas ce roman d'aventure, pour dire les choses autrement, roman d'aventure que j'avais aimé. Et c'est au fond, je remplis un petit peu ce vide, non pas parce que je veux donner des leçons à la littérature, mais simplement parce que c'est ce que j'aime et que c'est avec ça que j'ai été élevé.
Pierre Lemaitre, c'est une littérature qui nous élève à son tour. Permettez-moi de vous le dire, votre nouveau roman, il a pour titre Le Grand Monde, il est depuis le 25 janvier dehors absolument toutes les librairies, et c'est tant mieux pour nous, et vous devez vous précipiter dessus. Restez avec nous, Pierre, parce que dans la suite de Pop Pop Pop, nous allons parler, et à cause de vous, de...
I'm working for my father now, Kay.
But you're not like him, Michael.
Au bois, clamas, il y a des petites fleurs. Il y a des petites fleurs.
Et si on arrêtait ce petit jeu ? La fuite, le mensonge, vous n'êtes pas fatigué ?
D'Éric Vuillard, de la série Ozark, du Parrain, de Grippin et de Maxime Le Forestier. Mais avant ça, écoutons ensemble Claire. C'est un morceau de Baxter Dury.
Don't waste your life, Claire. Don't waste the things that you might do. And I love you so. Don't waste your bus fare. Don't waste your bus fare. Don't waste the places you might go. And I want you now. There's a cold chill. Your life, Claire. Don't waste the things that you might do. And I love you so. Don't waste your bus fare. Don't waste your bus fare. Don't waste the places you might go. And I want you now. There's a cold chill.
the things that you might do, and I love you. So don't waste your bus fare, don't waste your bus fare, don't waste the places you might go, and I want you. Now there's a culture in my heart, there's a culture in my heart.
C'était Baxter Dury qui nous chantait une certaine claire. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Alors, ça, c'est le son d'un grille-pain.
Faut le préciser, ouais.
Vous l'avez reconnu.
Ah ben oui, oui, ça.
Et la pop culture, pour vous, Pierre Lemaître, ben c'est ça. C'est un grille-pain.
Oui, oui, parce que le petit déjeuner, pour moi, c'est l'instant pop de la journée.
Ah oui.
Oui, oui, c'est.
Pourquoi parce que... c'est maman le toast, c'est.
Oui, d'abord, parce qu'il met du rythme. Il met du rythme. Ouais. Non, parce que, en fait, il fait appel à tous les sens. Et puis, le petit déjeuner est en soi le grand mystère français.
Pourquoi?
Parce que si vous mangez le midi deux fois des pâtes, mm-hmm. Vous dites, ah ben non, j'en ai déjà mangé hier. Non, mais oui. Le matin, vous voulez manger tous les jours la même chose. Donc c'est un grand mystère. Pourquoi tous les matins a-t-on besoin systématiquement, sauf les jours où on est à l'hôtel, où on s'en met plein la lampe. Mais quand on est à la maison, mm-hmm. on veut toujours la même chose. Alors que le repas du midi et le repas du soir doit être varié. Mm-hmm. Donc là, il y a quelque chose d'abyssal,
oui.
dont le grille-pain est en quelque sorte le symbole.
J'aime bien qu'on s'arrête un instant là-dessus, ça m'intéresse énormément cette question.
Continental,
non, c'est une question abyssale.
Peut-être
dont le grille-pain est l'emblème.
Peut-être parce que se réveillant, on est à nouveau plein d'une certaine innocence, d'une certaine candeur qui fait que
peut-être encore la bourgeoisie de la veille au soir, puisqu'on n'a pas envie de changer. Vous voyez, tout est dans tout.
D'accord.
Bon, voilà, avançons. On peut être aussi sur pilote automatique et refaire les mêmes gestes tous les matins parce qu'on n'est pas capable d'autre chose.
Peut-être aussi ça. Peut-être.
Pierre Lemaître, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série que vous attendez. Votre livre du moment, c'est Une sortie honorable d'Éric Vuillard. Charline, vous nous en dites un mot, s'il vous plaît.
Une sortie honorable raconte comment deux des premières puissances du monde ont perdu contre, je cite, un tout petit peuple, les Vietnamiens, mécanisme d'une débâcle.
Mm-hmm. L'Indochine est aussi un thème et un lieu de votre livre, Pierre. C'est décidément un fort tropisme du moment ou un hasard ?
Écoutez, je crois que c'est le hasard. J'en ai discuté un petit peu avec Eric. On a fait une interview croisée pour l'Express ensemble. Non, on est tombés tous les deux par hasard sur le même sujet. Non, j'ai choisi ce livre d'Éric Vuillard parce que Éric, je crois, fait quelque chose qui n'existait pas dans la littérature. C'est-à-dire un produit littéraire très étrange qui tient du récit et du roman, ouais. qui tient de l'histoire et de la fiction, pour aller sur des sujets qui sont des sujets graves, avec une sorte d'économie de moyens qui est absolument remarquable. Mm-hmm. Éric Vuillard est un grand écrivain. Et il fait des livres qui sont d'une très grande utilité d'abord, un très grand plaisir de lecture, c'est un mm-hmm. grand écrivain. Et en même temps, il va toujours choisir des sujets qu'il va démonter pièce par pièce, mm-hmm. en faisant appel à la fiction, au récit, à l'histoire. Franchement, il a inventé là quelque chose de très nouveau et j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas encore découvert à le faire, notamment avec ce nouveau livre.
Et à lire donc Une sortie honorable, je crois que c'est chez Actes Sud.
Absolument.
Si ma mémoire est bonne. Votre série du moment, ou du moins celle dont vous attendez avec impatience la prochaine saison, c'est Ozark, saison 4. Ozark, Charline, pour ceux qui n'écouteraient pas Pop 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 tous les jours, c'est quoi?
C'est l'histoire de Marty Bird, conseiller financier à Chicago, chargé de blanchir d'importantes sommes d'argent pour le compte d'un des plus gros cartels du Mexique. Il est forcément contraint à un moment d'aller se mettre au vert, et dans la saison 4, alors qu'ils pensent pouvoir enfin se libérer du cartel, ça chauffe chez les Birds, ce qui pourrait bien leur coûter cher, voire très cher.
Monsieur Bird ?
Bonjour.
Trevor Evans, FBI.
FBI ? Qu'est-ce qui se passe ?
Nous avons des raisons de croire que l'associé de votre mari a été assassiné.
Quoi ?
Et si on arrêtait ce petit jeu ? La fuite, le mensonge, vous n'êtes pas fatigué ?
On a pris la décision de déménager en famille dans un endroit plus tranquille.
Maman, qu'est-ce qu'on fait ici ?
Votre père blanchit de l'argent pour un cartel de drogue mexicain.
Quelqu'un va mourir.
On se détend.
Pourquoi j'ai ce curieux sentiment qu'on sait tous les deux que vous seriez mieux morts ?
On aura bien entendu reconnu la version française d'Ozark.
Ah, c'était dit français, d'accord.
Alors, qu'est-ce qui vous plaît tellement dans Ozark ? Qu'est-ce que vous trouvez dans Ozark que vous ne trouvez pas ailleurs ?
Alors, le néolibéralisme tente d'imposer le modèle de l'entreprise à toutes les strates de la société. On dirige les écoles comme des entreprises, on dirige les universités comme des entreprises, les hôpitaux comme des entreprises. Et là, c'est intéressant parce que c'est la famille qui est dirigée comme une entreprise. C'est-à-dire que la petite famille va devenir une entreprise de survie puisqu'elle est menacée par les cartels de la drogue. Et à l'intérieur, on va rejouer ce qui joue à l'extérieur, c'est-à-dire que chacun des deux membres de la famille, le père et la mère, vont chacun monter d'une certaine manière leur entreprise personnelle puisqu'ils sont en désaccord sur la méthode. Et donc l'un va aller plutôt du côté du cartel de la drogue, l'autre du côté du FBI. Donc on a une société, une petite société familiale, avec à l'intérieur deux micro-sociétés qui s'affrontent, puisque c'est un couple dysfonctionnel. Franchement, c'est passionnant.
Franchement, c'est passionnant. C'est Ozark, la série recommandée donc par Pierre Lemaître. Pour ce qui est du film, votre choix de film, Pierre, désormais on s'en étonne plus, c'est évidemment une trilogie, et une trilogie monumentale, puisqu'il s'agit du Parrain, la trilogie culte de Francis Ford Coppola. Charline, sans blague, on ne présente plus les Corleone.
Ah, ou alors on les présente bien, sinon c'est risqué. En 1945, à New York, les Corleone sont une des cinq familles de la mafia menée par le patriarche Don Vito, et c'est évidemment une comédie romantique.
Et voici, pour vous rafraîchir la mémoire.
I'm working for my father now, Kay. He's been sick. Very sick.
But you're not like him, Michael. I thought you weren't going to become a man like your father. That's what you told me.
My father's no different than any other powerful man. Any man who's responsible for other people. Like a senator or a president.
Do you know how naive you sound?
Why?
Senators and presidents don't have men killed.
Who's being naive, Kay?
Alors, Pierre Lemaître, ce qui est passionnant avec Le Parrain, c'est qu'on a tous une raison particulière et personnelle d'aimer cette série. Mais vous, cette trilogie, mais vous, qu'est-ce qui vous a tellement touché là-dedans ?
Cette trilogie est abyssale, d'abord parce que si on s'intéresse à l'histoire, la manière dont le film s'est fabriqué, c'est en soi un incroyable roman avec des rebondissements, un suspense, c'est incroyable. La façon dont finalement Al Pacino va décrocher le rôle, il va falloir faire appel à la mafia pour l'imposer dans le rôle parce que la veille, il a signé avec une autre compagnie. Enfin, c'est une histoire absolument passionnante. Mais sur le fond, c'est un petit peu l'anti-Ozark dont on parlait il y a quelques instants. Le néolibéralisme impose le modèle de l'entreprise partout. Et ce que fait la famille Corleone, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va épouser le modèle familial. Et ça, on est dans les années 70, hein, au moment de la parution des deux premiers volumes. Et c'est complètement à contre-courant. Vous voyez, j'ai envie de dire, c'est un film presque anti-néolibéral. Alors, c'était pas la volonté de Coppola, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que le modèle va à contre-courant, et c'est certainement une des choses qui, de manière subliminale, nous a intéressés.
Alors, on en a parlé hier, je vous engage vivement à regarder une série qui arrive en avril, qui s'appelle The Offer, qui raconte comment ce film s'est monté et s'est raconté du point de vue du producteur du film, qui a donc eu à gérer entre la mafia, Coppola, etc.
Ah, ça va être passionnant.
Votre chanson du moment, Pierre Lemaître, c'est Au bois de mon cœur de Brassens, mais chantée par Maxime Le Forestier. C'est sublime, ça. Il faut qu'on parle un peu de votre définition de la pop. Pourquoi cette chanson-là ?
Ben écoutez, d'abord parce que j'aime bien Le Forestier, c'est ma génération. Et puis parce que, surtout cette chanson-là, Le Forestier réussit à faire quelque chose qui est pour moi la règle d'or du métier d'écrivain. Hein. C'est, il fait très bien des choses très simples. Ouais. Il fait admirablement des choses très simples. Si vous écoutez la manière dont il a orchestré avec sa guitare, le jeu de basse, la manière dont il utilise l'arpège de manière très pointue, vocalement, c'est une perfection, c'est-à-dire que ce type-là chante admirablement, c'est vraiment un chanteur intuitif, tout est à sa place, c'est très simple, c'est admirable.
Démonstration, pas plus tard que tout de suite.
Bois, clamin. Il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Au fond de ma cour, je suis renommé. Au fond de ma cour, je suis renommé. Je
suis renommé pour avoir le cœur mal famé, le cœur mal famé. Au bois de Vincennes, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, dans mon tonneau, ils n'ont pas peur de boire mon eau, de boire mon eau. Au bois de Meudon, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Au bois de mon cœur, au bois de mon cœur. Il m'accompagne à la mairie, il m'accompagne à la mairie, à la mairie, chaque fois que je me marie, que je me marie. Au bois Saint-Cloud, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Chaque fois que je meurs fidèlement, chaque fois que je meurs fidèlement, fidèlement, ils suivent mon enterrement, mon enterrement. Au bois Clamart,
de mon cœur de Georges Brassens, chanté par Maxime Le Forestier et choisi par Pierre Lemaître, qui était notre invité aujourd'hui. Merci Pierre.
Merci de votre accueil.
De nous avoir rendu visite. Nous sommes très touchés par
vous
cette
aussi.
Visite. Merci. Je rappelle que votre nouveau roman Le Grand Monde est sorti chez Kalman Lévy et que il est juste indispensable, pour dire les choses simplement, non ?
C'est formidable.
Quelle vie. Voilà. Et merci aussi à toute l'équipe de Pop 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 et à Nicolas Delmas qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans Pop Pop Pop, Valérie Lemaître Mercier vient nous voir pour son grand retour au théâtre. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop.